Bonjour à tous. Vous allez bien? Il fait moins chaud, on n'est pas serré, ça va. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a changé à bien des égards. Nous sommes fascinés par l'évolution technologique qui nous facilite bien la vie, on doit le reconnaître. Mais nous devons aussi, malheureusement, faire le constat que notre monde, notre société, a évolué en mal. Lorsqu'on évoque les questions touchant à la morale et à l'évolution des mœurs. Je vais vous lire un extrait d'une publication intitulée « La crise des valeurs dans le monde actuel », faite par un haut fonctionnaire français en 2014, Yvan Blot. Je cite, « L'homme peut devenir inhumain s'il abandonne, peut vite devenir inhumain s'il abandonne les disciplines de la civilisation mûrie par les siècles. Ce n'est pas un hasard si le nombre de crimes et de délits en France, stabilisé à 1,5 million d'actes de 1946 à 1968, a augmenté jusqu'à 4,5 millions aujourd'hui. Dans tous les pays occidentaux depuis les années 1960, qui ont vu la remise en cause de la morale traditionnelle, le nombre des crimes a augmenté et de façon significative. Aux États-Unis, le nombre de prisonniers qui est aujourd'hui le plus élevé du monde a quintuplé depuis 1980. La société occidentale, pourtant de plus en plus prospère, est devenue de plus en plus violente et dangereuse ces dernières années. On a voulu libérer les instincts sans comprendre que chez l'homme, ils mènent vite à la barbarie s'ils sont sans frein. Voilà le constat de notre société. Aujourd'hui, la plupart des gens sont d'accord pour dire que dans notre société, il y a un déclin moral, une perte de valeur. Une disparition de bonnes mœurs à tel point que certains se posent même la question de savoir si le vrai problème de notre société est un problème économique ou un problème de perte de valeur, de perte de repère. Un essai sur la philosophie morale déclare, je cite, « Il est clair que la façon dont dans le monde, notre société considère le sexe est ce qui est moralement acceptable, a beaucoup changé au cours des 30 à 40 dernières années. Au cours de ces 30 à 40 dernières années. On est passé d'une société qui établissait sans ambiguïté ce qu'on jugeait moralement correct, au moyen de règles strictes, à une vision plus libre et plus individualiste. Aujourd'hui, les gens estiment que la conduite sexuelle et d'autres aspects de la moralité dépendent de leur choix personnel. Pour preuve, l'essai reprend des statistiques qui montrent qu'en 1960, seulement 5% des enfants américains étaient nés en dehors du mariage. En 90, ce chiffre est passé à 28%. En France, 30% des enfants étaient nés hors mariage dans les années 90. Aujourd'hui, en 2017, on est passé à 60%. Lors d'un cours à l'Université Notre-Dame dans l'État de l'Indiana, le sénateur américain Joe Lieberman a décrit les mœurs de notre époque, je cite, « comme un vide moral où les valeurs traditionnelles du bien et du mal ont peu à peu disparu. » D'après lui, ce phénomène s'est développé en l'espace de seulement 2 générations. Fin de citation. Les valeurs classiques d'honnêteté, de respect, de considération des aînés, le respect des personnes âgées, le sens de la famille, des responsabilités, l'entraide, ces valeurs sont en voie de disparition. Que s'est-il passé dans notre société? Quelle est la cause de ce déclin moral. Je pense que le problème que nous avons, c'est que les hommes ont refusé d'accepter la vérité. Ils ont refusé d'accepter que les standards de la morale, la source du bien et du mal, viennent de Dieu. Le monde a refusé d'accepter que le canevas pour une bonne conduite, pour un monde juste, c'est sa parole. Et plutôt que d'admettre qu'ils étaient incapables par eux-mêmes de satisfaire aux standards divins, ils ont changé ce qui les arrange. Ils ont changé le standard de Dieu en ce qui les arrange. Aujourd'hui, nous ne valorisons plus, aujourd'hui, nous ne valorisons plus la vérité, mais au contraire, nous donnons plus de valeur à deux choses, la convenance et le pragmatisme. Convenance, est-ce que ce que j'ai à faire, ce qu'on me demande de faire, est facile à faire? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me plaît? Et puis, pragmatisme, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pratique? Beaucoup de gens aujourd'hui s'en foutent en réalité de la vérité, à tel point qu'ils se demandent même s'il y a d'ailleurs une seule vérité. Comment en est-on arrivé là? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 18. Romains, chapitre 1, à partir du verset 18. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte, au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. On va s'arrêter là. Les hommes ont changé la vérité contre le mensonge. À plusieurs reprises, il est dit « Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à leur passion avilissante » au verset 26, au verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur. Et si nous lisons au verset 28, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. À une certaine époque, il n'y avait pas de divergence d'opinion concernant ce qui était juste ou injuste, vrai ou faux, bien ou mal. Les gens faisaient du bien, du mal, mais ils savaient que c'était du mal, et ils le faisaient quand même. Mais aujourd'hui, nous avons souvent une génération qui ne sait même pas distinguer ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou injuste, ce qui est vrai ou faux. Vous avez peut-être déjà entendu cette réplique, ce qui est juste pour toi peut être injuste pour moi, ce qui est bien pour toi peut être mal pour moi, ou ce qui est mal pour toi peut être bien pour moi. Il n'y a plus de standards, il n'y a plus de repères à partir desquels on peut évaluer notre comportement. Pourquoi ? Verset 21, alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Lorsqu'on honore quelqu'un, on le respecte. On donne du crédit à ce qu'il dit. On lui donne du crédit. S'il nous demande de faire quelque chose, on s'exécute. Le monde a refusé d'honorer Dieu. Et les gens se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Trois philosophies ou modèles de pensée dans le monde font, selon moi, partie de cette catégorie de raisonnements absurdes. L'individualisme, le sécularisme et le relativisme. L'individualiste dit « Je vis pour moi, pour mon bonheur personnel. Je suis le seul à savoir ce qui est bien pour moi. Je suis le seul à juger ce que je fais. Et personne n'a à me dire quoi que ce soit sur ce que je fais. En d'autres termes, je suis mon propre Dieu et je fais donc ce que je veux, ce qui est bon, ce qui est mieux pour moi. » Un professeur de philosophie déplore ce fait et dit que nous sommes revenus à un âge de pierre de la moralité. Et elle a remarqué que lorsque ses étudiants ont à faire face à cette question qui touche le bien et le mal, à la question du bien et du mal, la plupart d'entre eux se montrent très hésitants. Ils affirment alors que le bien et le mal n'existent pas. Ils pensent que c'est à chacun de décider ce qui est mieux pour lui. La Bible nous avertit dans Ésaïe 5, 20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. » Un essayiste français, Pascal Bruckner, et philosophe, dit dans un article de l'Institut d'éthique contemporaine ceci à propos de mai 68. Mai 68, c'est l'acte d'émancipation de l'individu qui sape la morale collective. Désormais, on n'a plus d'ordre à recevoir de personne, ni de l'Église, ni de l'armée, ni de la bourgeoisie, ni du parti. Et puisque l'individu est libre, il n'a plus d'autre obstacle face à son désir que lui-même. Il n'a plus d'autre obstacle face à son désir que lui-même. Vivre sans temps mort, jouir sans entrave, c'est la meilleure promesse d'un nouveau monde. Mai 68, c'est une révolution anti-autoritaire, anti-traditionnaliste, dans laquelle la sexualité agit comme un phare. Tout d'un coup, l'irruption de la volupté. Fin de citation. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de standards, s'il n'y a pas de repères, alors on fait donc ce qu'on veut, ce qu'on juge bon. C'est assez facile comme philosophie à appliquer dans nos vies parce qu'on n'a pas à se comparer à qui que ce soit. On n'a pas à se sentir coupable parce que nos valeurs peuvent être différentes de celles des autres. Et si vous dites à un individualiste que ce qu'il fait n'est pas bien, comme je vous disais tout à l'heure, il vous dira « ce n'est peut-être pas bien pour toi, mais pour moi, c'est bien ». Et on sait quelles ont été les conséquences d'un tel comportement, notamment dans la nation d'Israël, lorsqu'il n'avait pas de roi. Si vous lisez le livre des Juges, et notamment vers la fin, il est dit « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et c'était le chaos, c'était l'anarchie. Et toi, ce matin, est-ce que ta vie est bâtie sur ce modèle de pensée? Est-ce que pour toi, tu fais ce que tu veux et personne n'a à te dire quoi que ce soit? Deuxième modèle de pensée, le sécularisme. On peut résumer cette philosophie en quelques mots. Dieu n'est pas indispensable. Bien souvent, ceux qui appliquent ce modèle de pensée ne nient pas l'existence de Dieu, mais juste simplement qu'ils n'ont pas besoin de lui dans leur vie pratique au quotidien. Verset 21, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur. » Notre société a systématiquement retiré Dieu de tous les domaines publics. Nous l'avons retiré de l'école, du gouvernement, des médias, et nous l'avons relégué au culte du dimanche. Et encore, aujourd'hui, combien de personnes vont encore à l'église ? Un sondage d'un institut américain, récent d'ailleurs, en mai 2018, disait que 39%, seuls 39% des catholiques américains affirmaient avoir participé à la messe ces 7 derniers jours, alors qu'ils étaient 45% de 2005 à 2008 et 75% en 1955. Selon un autre sondage, un sondage IFOP ici en France, publié par le Nouvel Obs en juillet 2016, seulement 4,5% des Français étaient considérés comme messalisants, c'est-à-dire qu'ils allaient une fois par mois à la messe, pas tous les dimanches, une fois par mois, seulement 4,5% des Français, contre 20% encore en 1972. Le sécularisme est l'un des changements qui a le plus affecté la société durant les deux derniers siècles, fait observer le livre « Dignité humaine et pouvoir ». Cela signifiait que les gens avaient désormais la possibilité de choisir par eux-mêmes entre différents points de vue. Cette idée est apparue avec les philosophes du XVIIIe siècle, ou siècle des Lumières, qui ont été les premiers à rejeter la Bible comme seule source de la vérité. De ce fait, les religions, en particulier le christianisme, ne sont plus autant que par le passé considérées comme un guide moral. Combien de personnes, d'ailleurs aujourd'hui, croient encore que la Bible a une autorité morale ? Aujourd'hui, le plus grand pourvoyeur de valeurs, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus la parole de Dieu, ce ne sont même pas les parents, c'est la télévision. Rattrapé par Internet, Dieu a été banni de notre quotidien. Verset 25, nous avons délibérément changé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Mensonge qui consiste justement à croire que Dieu n'est pas indispensable dans notre vie. Pourtant, l'homme est de nature religieux. Il a besoin d'adorer quelque chose. Lorsqu'on sort Dieu de notre vie, alors forcément on le remplace par quelque chose d'autre qu'on adore. Cela a d'abord commencé par les idoles de pierre, à l'image d'un homme, d'oiseaux, de quadrupèdes, comme nous le dit le texte, puis aujourd'hui avec justement l'évolution d'autres idoles moins flagrantes, mais qui ont pris la place de Dieu dans notre vie. Nous-mêmes, notre moi, notre travail, peut-être notre conjoint, notre copain, copine, nos biens. Parce que quand l'homme refuse d'adorer Dieu, alors il se fabrique ses propres idoles. Et pour toi aujourd'hui, qui es là ce matin, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie de tous les jours? As-tu besoin de Dieu au quotidien? Ou pour toi, comme le prône cette philosophie, Dieu n'est pas indispensable dans ta vie? Est-ce qu'il n'est présent que le dimanche matin? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Troisième modèle de pensée, le relativisme. On peut résumer cette philosophie en deux mots. Pas d'absolu. Ou bien tout est relatif. Il n'existe donc aucune vérité absolue. Le relativisme moral est l'idée qui consiste à dire qu'il n'est pas possible d'ordonner les valeurs morales par l'utilisation de classements, de critères de classement. Toutes les idées se valent. Ce n'est qu'une question de perception. L'idée du relativiste est de dire que ce qui est vrai, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, pour toi, ne l'est pas forcément pour moi. Ce qui est bien ou mal pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Et personne ne peut dire ce qui est bien ou mal parce que toute vérité est relative. Là encore, c'est un moyen facile de vivre sans culpabilité parce que, encore une fois, on ne se compare à personne, à aucun standard, encore moins au standard de Dieu, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa vérité. Vous avez déjà peut-être entendu aussi cette phrase phare du relativisme, « Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais ou ce que tu crois, tant que tu es sincère. » Sauf que, malheureusement, on peut être sincèrement dans l'erreur et être sincère. Imaginez que je prenne cette bouteille d'eau et qu'elle soit souillée d'un poison mortel sans que je le sache. Je peux boire de l'eau en pensant que c'est de l'eau. Et je serai sincèrement mort. Excusez, je blague. Bien sûr que la vérité compte. Dans mon cabinet, il y a une collaboratrice où je travaille qui rentrait un soir d'une fête d'une autre collègue. Et elle s'est pris une voiture qui roulait à contresens sur l'autoroute. Peut-être que le chauffard qui conduisait cette voiture pensait sincèrement qu'il avait pris l'entrée de l'autoroute dans le bon sens. Imaginez maintenant que vous le voyez faire cette manœuvre, vous le voyez s'engager sur la sortie de l'autoroute, puisqu'il a dû prendre dans le mauvais sens. Vous le voyez s'engager et vous klaxonnez. Hé, monsieur, vous êtes en sens interdit. Vous roulez à contresens, faites demi-tour. Et lui, adepte du relativisme, il vous regarde et dit « Qui êtes-vous pour me dire ce qui est bon ou mauvais ? Ce qui est bien pour vous est peut-être mal pour moi. Pour vous, c'est sens interdit, pour moi, c'est sens autorisé. » Qui vous donne le droit de me juger ? Alors, monsieur, un peu d'ouverture d'esprit. Ma route est par là. Laissez-moi conduire et arrêtez de me juger. Pensez-vous que, parce qu'il croit sincèrement qu'il a pris le bon sens, que cela l'empêchera d'avoir un accident ? Est-ce que la vérité compte dans cette situation ? Bien sûr que si. Depuis son accident, ma collègue est toujours en arrêt. Elle a même eu beaucoup de chance. Elle aurait pu perdre sa vie. C'est pareil, lorsque la Bible proclame que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que personne, nul ne vient au Père que par lui, que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, ou qu'il n'y a de salut à aucun autre. Le monde regarde les chrétiens comme des fanatiques qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui ont la vérité. Et on entend alors des phrases comme « Il n'y a pas de vérité absolue, vous ne pouvez pas dire ça. Toute vérité est relative. » Mais la bonne question à leur poser est de savoir s'ils sont absolument sûrs. Parce que rien que le fait de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue suppose qu'on est en train d'affirmer une vérité absolue, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et s'ils vous disent que toute vérité est relative, là aussi ça veut dire que tout, y compris leur affirmation, est relative. Or, si une affirmation est relative, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours vraie. Donc, si l'affirmation, entre les guillemets, toute vérité est relative, je ferme les guillemets, n'est pas toujours vraie, cela veut dire que parfois, la vérité n'est pas relative. On se comprend ? Bref, ne nous laissons pas abuser par ces faux raisonnements. Les phrases telles que « peu importe ce que vous croyez, tant que vous êtes sincère » ou « il n'y a pas de vérité absolue » sont illogiques et irrationnelles. Illogique d'abord parce que ces affirmations, comme je le disais tout à l'heure, sont en elles-mêmes des affirmations absolues. Il n'y a pas de vérité absolue, vous venez d'en affirmer une. Et c'est irrationnel parce que notre monde est construit sur des lois naturelles, sur des principes, des vérités absolues sur lesquelles il repose et desquelles nous dépendons parce qu'elles sont absolument vraies. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité absolue sont intéressés par la vérité lorsque leurs droits sont bafoués. Si votre voisin est un adepte du relativisme, essayez de construire une extension de votre maison sur son terrain. Vous allez voir sa réaction. Il va vous dire « Il y a des règles dans ce pays qui doivent être appliquées. » Et à mon avis, s'il n'arrive pas à vous faire entendre raison, il va porter le litige devant les tribunaux pour réclamer justice. Or, il ne peut y avoir de loi s'il n'y a pas de règles absolues qui soient vraies ou fausses. Une autre conséquence du relativisme est que, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue, Dieu n'existerait pas non plus. Dans notre texte, Paul répond à cette affirmation en déclarant qu'en réalité, tous les hommes, pas un seul, tous les hommes savent de manière innée que Dieu existe. Je reviens sur notre texte. Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne le respectent pas. Et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Pas un seul homme ne peut dire qu'il ne sait pas en réalité, s'il est honnête, que Dieu existe. Le verset 25 implique que les hommes ont activement ou volontairement rejeté certaines vérités dont ils avaient connaissance concernant l'existence de Dieu et son caractère. Et Paul ajoute au verset 19 que ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Non seulement la connaissance de Dieu est innée en l'homme, mais la nature elle-même témoigne de l'existence de Dieu. Dans Somme 19, verset 2, on peut lire « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de standard de vérité. Et s'il n'y a pas de standard, malheureusement, tout peut arriver. Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation divine, quand il n'y a pas de Dieu, si vous voulez, le peuple ne connaît aucune retenue. Et ça rejoint ce que disait ce haut fonctionnaire, l'homme peut vite devenir inhumain. La sentence de Dieu pour ceux qui le rejettent volontairement malgré tout ce qui leur a fait connaître de lui et qu'ils n'ont donc aucune excuse. Et du coup, Dieu les abandonne à leur raisonnement absurde et à leur passion avilissante. Pardon. Plutôt que d'accepter la notion que notre société n'est pas à la hauteur des standards bibliques, la société a modifié le standard. Ricardo nous a rappelé dimanche dernier que l'espérance chrétienne nous appelle à vivre différemment selon les standards de Dieu. Selon quel standard veux-tu bâtir ta vie aujourd'hui? Selon des philosophies qui découlent de la déformation de la vérité, basée sur nos raisonnements que la Bible appelle absurdes, stupides, ou basée sur les standards de Dieu, sur la connaissance de sa volonté. Si vous choisissez de vivre selon les standards du monde, de prendre l'individualisme, vous admettez donc que vos valeurs sont centrées sur vous, sur ce que vous pensez pour vous, être bon pour vous. Vous faites ce que vous voulez et vous choisissez de faire ce qui vous plaît. Ou alors, est-ce que vous choisissez de vivre toujours dans ces standards du monde, selon le sécularisme, en disant que vous n'avez pas besoin de Dieu dans votre vie au quotidien? Vous le remplacez donc par d'autres choses qui vous dicte vos choix, ou alors pour vous, Dieu, c'est simplement comme aujourd'hui, le dimanche matin, et pas présent du tout pour vous dans la semaine, ou alors le relativisme, pour vous, il n'y a pas de vérité en soi, tout est relatif, et chacun a sa propre vérité. Ou alors, vous choisissez de vivre basé sur les standards de Dieu, en respectant la volonté de Dieu, en lui donnant la gloire et l'honneur qui lui est dû, en lui exprimant votre reconnaissance et en l'adorant pour ce qu'il est, notre Créateur, en acceptant son Fils, Jésus-Christ, comme la seule vérité absolue, le seul chemin par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas de vérité absolue. Si, il y en a une. Et nous, chrétiens, nous pensons que la Bible est la vérité absolue. Amen. Maintenant, il y a peut-être des choses dans la Bible que vous ne comprenez peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez même pas lire et qui ne font aucun sens pour vous. Mais je peux vous dire une chose. La Bible, c'est la vérité. Parce qu'elle vient de Dieu. La parole même de Dieu. Et cette Bible nous déclare que c'est vrai, par nous-mêmes, nous sommes incapables de vivre selon les standards de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à mener ce combat tout seul. Nous n'avons pas à mener ce combat par nous-mêmes. Parce que si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est non seulement pour nous réconcilier avec ce Dieu que nous avons volontairement rejeté, mais aussi pour nous donner la capacité, par son esprit qu'il met en nous lorsque nous lui ouvrons notre cœur, à vivre selon les standards de Dieu. Et bien si malgré tout vous choisissez de rejeter volontairement Dieu, eh bien nous ne pourrons que constater les dégâts, conséquences de notre choix. Parce que Dieu, comme il est dit à 3 reprises dans ce texte, nous abandonnera à toutes sortes de passions qui nous poussent à détruire même notre propre corps. On ne s'étonnera donc pas que les choses ne tournent pas rond dans notre monde. Et alors qu'on vous posera la question de savoir si Dieu existe, pourquoi le mal, pourquoi la guerre, pourquoi ci, pourquoi ça, je vous invite à leur répondre avec Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et pour terminer, pour nous qui avons choisi d'accepter et de vivre selon les standards de Dieu, je vous laisse cette exhortation de l'apôtre Paul en Éphésiens 4, 19 qui dit « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. » À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen.